Et donc dans l'évangile selon Luc, au chapitre 10, les versets 29 à 37, texte qui va nous être lu par Alexandre et Sophie.
Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. »
Mais lui voulut se justifier à Jésus. « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des bandits, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva au même endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. »
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. »
Dans une série de prédications consacrées à la parabole du Samaritain et données au foyer de l'âme en 1914, le pasteur Charles Wagner écrivait « Que faut-il que je fasse pour entrer en possession de la vie éternelle ?» La question équivaut à celle-ci « Comment employer la vie pour en tirer le meilleur fruit possible maintenant et toujours ?» On le voit, ce n'est pas une question, c'est la question. Et nous, aujourd'hui, nous pourrions également la poser ainsi. Comment vivre pour ne pas vivre en vain ? Ou encore, comment faire pour que ma vie soit vivante ? Celui qui pose la question, le spécialiste de la loi, est amené par Jésus à y répondre lui-même. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'où sa question suivante, qui est mon prochain ? Quelles que soient les raisons pour lesquelles le légiste pose ces questions à Jésus, l'évangile de Luc nous met en situation de les poser également, pour nos propres existences. Les poser pour notre propre compte, pour les soupeser, pour les traduire, voire pour les critiquer. Ainsi, la question de savoir qui est mon prochain, qui vient si naturellement à la suite de la première réponse du spécialiste de la loi. Qui est mon prochain ? C'est une manière de poser la question en sous-entendant que la réponse servira de critère pour pouvoir reconnaître le prochain et celui qui ne l'est pas. Une réponse pour définir à l'avance qui est le prochain et qui ne l'est pas. Une réponse pour répartir les gens en deux catégories, les prochains et les autres, et en être très satisfait. Et en ce sens, la question est un piège. Pas seulement pour Jésus, mais aussi pour celui qui la pose en ces termes-là et qui se trouvera lui-même enfermé dans une représentation de l'humanité coupée au moins en deux, ce qui implique une image de Dieu très particulière, un Dieu qui lui aussi partage l'humanité en deux, puisque l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont profondément liés. Alors la parabole racontée par Jésus fait s'effondrer cette question et s'effondrer la représentation de l'humanité qui en découle et la représentation de Dieu qui en est la conséquence. Voyons de plus près ce que cette parabole donne à comprendre. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Enfin, ce n'est pas exactement un homme. Moins précisément, c'est un être humain. Un être humain qui n'a aucune spécificité, aucune caractéristique qui permettrait de reconnaître en lui un proche, ce qui n'est pas un prochain, ou un lointain. Cet être humain peut être n'importe qui. Les deux seules choses que nous sachions, c'est qu'il est seul et qu'il est en route. En route, tout seul. Alors toujours avec le pasteur Wagner, nous pouvons entendre ici une métaphore de la vie, de tout être humain. La vie humaine comme une marche sur une route, c'est une image très ancienne et très largement partagée de l'existence. La solitude du voyageur non défini signifie qu'il s'agit d'une personne à la fois unique et universelle, et aussi que personne ne peut faire le chemin de ma vie à ma place. L'humain, chaque humain, est un voyageur. Sur sa route, l'être humain marchera dans de la poussière. Il y aura des cailloux, oui, mais il marche avec un élan et avec des forces. Vous, Alexandre, Sophie et Glantine, qui êtes au catéchisme, vous marchez avec l'élan et les forces de votre jeunesse, et vous en êtes encore au début du chemin. Et soudain sur la route, surviennent les bandits qui assaillent l'être humain, le rouent de coups, le dépouillent et le laissent à demi-mort. Il y a des risques et des dangers sur la route. Et ces bandits représentent les figures des maux, misère, malheur qui assaillent les êtres humains, tous les dangers de l'existence, maladies, accidents, ruptures, crises, tempêtes, guerres. Personne n'échappe à l'un ou l'autre de ces maux. Et ces dangers ne sont pas toujours des personnes. Même s'il est vrai que bien des humains sont occupés par un esprit de domination, un esprit de prédation, l'orgueil de l'exercice d'un pouvoir, l'aveuglement provoqué par des intérêts particuliers, et que cela les conduit à traiter d'autres personnes comme des choses, et pas comme des humains, membres de l'humanité dont ils font partie eux aussi. Et il y a ainsi des maux capables de détruire ce qui fait grandir et s'épanouir l'humanité des humains, capables de détruire la confiance, la solidarité, l'espérance. Et cela, c'est détruire par la convoitise et l'avidité, détruire par la corruption, par le mensonge, par la violence, c'est détruire l'humain en l'humain. Si la peur de ces malheurs, de ces dangers dominait, personne ne marcherait sur la route et ne vivrait qu'en restant, tâchant de rester le plus strictement possible au même endroit de la même manière. Si le pessimisme l'emportait, personne ne bougerait jamais, il n'y aurait pas non plus de solidarité, pas d'imagination, pas de protestation, pas d'espérance et pas d'avenir. Le prêtre et le lévite marchent sur la route. Ils voient l'humain à terre, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils passent à distance. Et cette distance délibérée, c'est comme un mur qu'ils dressent entre eux et le blessé. L'humain à terre n'est pas leur affaire. Ce passage à distance, ce mur, les préserve de l'empêchement d'assurer leur fonction au temple par contamination de l'impureté d'un corps mort, car le blessé pourrait mourir. Ce mur les préserve donc de la nécessité de suivre une procédure de purification en tant que prêtres et lévites. Mais ce mur qui les protège est aussi le mur qui exclut et condamne celui qui est à terre. C'est si facile de dresser des murs, nous le savons bien. Car ce serait trop facile de se contenter de désigner le prêtre et le lévite comme des méchants, comme des coupables de non-assistance à personne en danger. Il y a au moins un petit prêtre et un petit lévite en chacun de nous. Il y a en chacun de nous la tentation de passer à distance, de dresser un mur entre soi et ceux qui gisent sur le bord de la route. Le mur de la peur qu'il m'arrive la même chose. Alors je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, une forme de conjuration un peu enfantine, un peu magique. Si je ne vois pas, ça ne se passe pas. La peur qu'il m'arrive la même chose. Les brigands pourraient ne pas être loin. Le malheur pourrait m'attraper. Il y a aussi le mur du clan, de la tribu, le mur de la particularité, culture, religion, origine. Celle-ci n'est pas une proche, celui-ci ne fait pas partie des miens. Il y a aussi le mur de l'impuissance qui paralyse et celui de la lassitude. Il y en a tellement, il y en a trop des humains à terre. Il y en a tout le temps. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes. Alors derrière le mur, je suis tranquille. L'être humain à terre ne me concerne pas. Ce n'est pas mon affaire. Et puis il y a aussi toujours la tentation pour les religieux de ramener Dieu du côté de son mur à soi. Et les églises et les responsables d'églises chrétiennes n'ont pas manqué d'y céder en justifiant l'esclavage, l'apartheid, d'autres idéologies comme le nationalisme qui ont laissé et laissent à terre, ont fait et font taire tant d'êtres humains. Mais la représentation du monde comme traversée de murs, séparant les proches et les lointains, c'est une altération de l'humanité, une altération de l'image de Dieu, ce Dieu créateur et sauveur, Dieu qui en Abraham bénit tous les clans de la terre, Dieu qui ne détruit pas Ninive, et cela met Jonas très en colère, Dieu qui attend toutes les nations de la terre pour son grand festin sur la montagne, comme le proclame le prophète Ésaïe. Toute manière de confesser que Dieu ne fait exception de personne, ainsi que l'apôtre Pierre le déclare dans un de ses discours au livre des Actes. Mais c'est ce que Jésus de Nazareth a révélé par sa vie et par sa mort. Le prêtre et le lévite passent à distance, derrière leur mur, et l'être humain à terre est privé d'avenir. L'humain tombé aux mains des bandits n'a plus rien à attendre. Il n'a plus rien à espérer. Celui qui est déjà à demi-mort est abandonné à la mort. Mais aussi, que deviendront le prêtre et le lévite dans leur monde bordé de murs, rétrécis à leurs règles et à leurs semblables, confinés dans leur seul point de vue? Que deviennent les êtres humains dans un monde découpé de murs, menacés par tout ce qui n'est pas semblable à eux, méfiant envers tout ce qu'ils croisent sur leur route? Y aurait-il vraiment dans ces conditions un avenir, c'est-à-dire des possibles ouverts devant eux et pour eux, avec la responsabilité et la liberté de les discerner et de les emprunter ou pas? Parce que cela semble plus simple, parce que cela paraît coûter moins, Il y a en chacun de nous la tentation de réduire l'avenir à une voie déjà tracée, un futur déjà écrit, ou alors de tout laisser dériver en fatalité. Et lorsque cette tentation induit une pensée et un agir, eh bien cela génère du désespoir, de la colère, de la violence et parfois même la guerre. Sur la route de Jérusalem à Jéricho marche un Samaritain. Il arrive près de l'humain tombé à terre, il le voit et il s'approche. Le Samaritain se fait le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands, ainsi que le reconnaît le spécialiste de la loi qui interroge Jésus et qui est interrogé par lui. Ce qui pousse le Samaritain à s'approcher du blessé, à prendre soin de lui, à prendre du temps pour lui, à fournir les moyens nécessaires pour qu'il soit soigné à l'auberge, c'est un mouvement intérieur et décrit en grec par l'agitation des entrailles et traduit dans la plupart des Bibles en français par le mot de compassion ou par « il fut ému ». Si la compassion commence par une émotion, elle ne reste pas intérieure. Elle conduit à un engagement du Samaritain envers le blessé. La compassion est véritablement compassion dans cette prolongation du mouvement des entrailles par le mouvement des mains. Et pourtant, le Samaritain aurait pu, lui aussi, comme le prêtre et le lévite, dresser un mur entre lui et l'humain à terre. Car Samaritain et Juif ne s'entendent de guerre et même plutôt mal. Le Samaritain, lui aussi, aurait pu abandonner le blessé au bord du chemin et passer à distance. Le Samaritain aurait une bonne raison de ne pas s'occuper du blessé et de se dire « ce n'est pas mon affaire ». Mais le Samaritain n'est pas un homme de mur, il bâtit un pont. La compassion engage à bâtir des ponts, pas des murs, et même elle engage à devenir comme des ponts. Prendre soin d'un juif pour un samaritain, c'est bâtir, c'est se faire un pont par-dessus des siècles de mépris et de méfiance, par-dessus des souvenirs accumulés de morts, de destruction, de rancœur, par-dessus des mauvaises réputations, par-dessus un héritage acide. Bâtir un pont, devenir un pont, c'est rendre les différences secondaires par rapport à la vision de l'humanité rassemblée ainsi que l'a décrivait le prophète Ésaïe, secondaire par rapport à l'amour de Dieu pour le monde, comme l'écrit l'évangéliste Jean. Devenir comme un pont, c'est voir au-delà ou à travers la réalité, ses malheurs et ses misères, voir la beauté et la bonté de la vie qui nous appelle, à laquelle nous sommes appelés. Et la compassion éprouvée par le Samaritain le conduit à agir contre les réflexes, contre les habitudes, peut-être même contre ce qu'on lui avait enseigné. Car la compassion est inconditionnelle, et en cela elle est le signe d'une liberté intérieure, d'un esprit libéré de la dictature des murs. Et le Samaritain est en cela porteur d'espérance pour l'humain blessé. Car la compassion, c'est une des formes de l'espérance, une des formes de la conviction que le mal n'a pas le dernier mot sur qui que ce soit, une des formes de la conviction que malgré le mal et ses ravages, c'est un amour vivifiant qui fonde le réel et le tend déjà aujourd'hui vers l'éternité. Une des formes de la réponse du oui de Dieu sur chaque être humain. Grâce au Samaritain, il y a un avenir pour l'humain tombé aux mains des bandits. Il sera soigné, il pourra se rétablir, continuer sa route lui aussi après la pause imposée par son agression. Il continuera son chemin en sachant qu'il a été sauvé, qu'une compassion lui a été témoignée. Peut-être même saura-t-il que c'était la compassion d'un Samaritain. Et c'est pour lui un avenir. Pas seulement parce qu'il va vivre, mais aussi parce qu'il saura qu'il est possible de ne pas dresser de mur entre Juifs et Samaritains, entre un humain et un autre humain différent. Grâce au Samaritain, il y a aussi un avenir pour l'aubergiste, l'hôtelier, qui a vu, qui sait désormais qu'un Samaritain peut prendre soin d'un Juif. L'aubergiste, lui aussi, pourra un jour décider de ne pas dresser de mur, mais de bâtir, de devenir comme un pont. Il y a un avenir pour le Samaritain, un avenir aussi vaste que le monde est vaste avec sa diversité d'humains. Comme la tentation des murs se tient en chacun, la compassion est aussi présente en chacun de nous, parce qu'elle est le fruit de l'amour profond qui nous tient humains, qui nous tient vivants. Veillons sur elle, en nous et avec d'autres. Veillons sur elle même contre nous-mêmes, et là où des murs sont dressés entre les uns et les autres. Le mouvement de la compassion, la possibilité d'un pont, c'est cela qui permet un avenir hors des murs, et il n'y a d'avenir qu'hors des murs. L'avenir, c'est-à-dire la vie qui vient, c'est une question de pont. L'avenir, celui de chacun, celui d'Alexandre, de Sophie et d'Églantine, de Suzanne et d'Elsa, le nôtre aussi, l'avenir pour tous, ce n'est jamais une question de mur. Ce que la parabole nous invite à réfléchir et à comprendre, la question, avec une majuscule comme l'écrivait le pasteur Wagner, c'est une question de pont, la question de devenir comme des ponts. Amen.